les chemins de traverse, il était une fois une fée jaune, l'agent Cyan. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Nous sommes avec le liquoriste Sébastien Jolivet dans une splendide cave voûtée, creusée dans la lave, au pied de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Bonjour et bienvenue chez Genestine. À la fin de l'épisode précédent, Sébastien nous précisait que son passé de sommelier et d'œnologue l'avait fortement aidé dans l'élaboration de la recette de sa grande gentiane. Suite de l'histoire de ce travail de création.
Parfois on me dit « Ah mais vous avez fait toutes vos recettes » ainsi de suite. Mais oui, mais c'est le passé de cuisinier et de sommelier et d'œnologue qui fait qu'on arrive à ça. Hein.
Oui, vous connaissez vos matières, vos ingrédients, comment ça réagit.
Voilà, et puis le feeling, et puis c'est une filiation. Mon père fait des liqueurs depuis longtemps.
Enfin, la famille.
Voilà, la famille. Et aussi à ma mère, parce que ma mère m'a apporté aussi le côté des recettes, de la cuisine. Et je m'aperçois aujourd'hui, en créant de plus en plus de recettes, que finalement, il y a aussi, je vais dire, une aide qui m'a été donnée par ma mère de créer des recettes, parce que elle, c'est plutôt le côté cuisine. Mmh. Mais je pense que dans la création des liqueurs, il n'y a pas que le côté liquoriste, il y a aussi le côté cuisine, cuisinier. Pour moi, c'est le même univers.
Mais il y a un mariage des saveurs.
Et voilà. Comment,
des parfums,
comment on assaisonne, en quelque sorte, on assaisonne nos liqueurs, les proportions.
Si pour sa gentiane, Sébastien a élaboré la recette, pour le contenant, il a fait en sorte le plus possible de faire renaître Genestine telle qu'elle était par le passé.
On a refait les bouteilles du 19e siècle, comme vous voyez là, hein. Le même logo, la même marque, Genestine en bas, la double étiquette, la même forme de bouteille, quasiment le même goulot. On a repris le logo fait par Bartholdi. Et d'ailleurs, François Genestine mettait déjà en 1886 le Vercingétorix de Bartholdi sur ses bouteilles, alors que la statue connue de tous les Clermontois, Place de Jaude, Vercingétorix, date de 1903. Donc en fait, 17 ans avant la statue Place de Jaude, Genestine avait réussi à avoir l'autorisation signée de la main d'Auguste Bartholdi de pouvoir utiliser son Vercingétorix pour orner ses bouteilles.
Comment a germé l'idée de reprendre la distillerie et de relancer la marque avec la liqueur de gentiane ? Suite de l'histoire.
C'est jamais qu'un élément, c'est toujours plusieurs les éléments. Premièrement, je suis grossiste en vin et spiritueux. Je souffrais de ne pas avoir une gamme de spiritueux qui maille, c'est-à-dire des produits de qualité, jolis, avec une belle histoire, à des prix cohérents. Parce que souvent, malheureusement, on a des produits artisanaux ou de petits producteurs, mais les prix sont tellement délirants que nous, en tant que grossistes, on ne peut pas développer une marque. Ou alors, il faut vraiment faire des produits très spécifiques et très, très haut de gamme en qualité. Donc voilà. Et je n'arrivais pas à trouver ça. Ensuite, il y a eu la cave, ici, qui se prêtait bien à l'élevage de vin ou de liqueurs. Donc, je me suis dit, et pourquoi pas élever des liqueurs ici. Et le troisième aspect, où je me retrouve pendant 3 mois avec beaucoup plus de temps pour créer quelque chose. Et donc, je me dis, ben, tiens, c'est le moment pour monter ta distillerie. Comme ça, tu auras tes propres produits. Tu pourras élever dans ta cave. Et en plus, actuellement, tu as le temps. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, et si on réveillait une ancienne marque ? Et en tapant tout simplement sur Internet, ancienne marque de spiritueux d'Auvergne, je tombe sur Genestine. Et je me dis, oula, le nom est joli, il y a une belle histoire, on va refaire partir cette marque, retrouver les descendants, je voulais leur adoubement moral pour pouvoir continuer l'aventure, bon, même si légalement je pouvais redéposer la marque Genestine. Et donc aujourd'hui, on a relancé cette marque et on ne la limite pas, et comme le faisait François Genestine à l'époque, à une marque régionale. On destine Genestine au marché national, voire international. On commence un peu à vendre à l'étranger aussi. Mm-hmm. C'est super intéressant.
Et la famille Genestine, elle a suivi. Ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un reprenait, relancer un peu l'aventure de la famille.
Ben, si vous voulez, après, moi, j'ai retrouvé l'un des descendants qui a aujourd'hui 100 ans et qui habite toujours à l'étage de l'ancienne distillerie. Donc, c'était amusant, en plein centre de Clermont. Et si vous voulez, les enfants, après, ont pris des trajectoires complètement différentes. Mais de voir que je refaisais vivre la distillerie Genestine, ben, c'était qu'une bonne nouvelle pour eux.
L'histoire reprend, quoi.
Voilà. C'est... Et puis... Bon, maintenant, je m'estime être un proche de François Genestine parce qu'on a une filiation professionnelle, puisque j'ai repris les rênes de sa société, tout simplement. Je suis son successeur en termes d'entreprise. Vous allez vouloir la goûter quand même.
Ah, je veux bien, oui.
Bon, très bien. Je vais vous chercher un verre
ouais.
Et je vais vous la faire goûter.
C'est vraiment une cave magnifique. Vous avez un endroit splendide.
Puis surtout, on est à côté de la cathédrale, on est en plein centre-ville. Allez, je vous fais goûter cette grande gentiane qui peut se boire sur glace. Mmh. Là, je vais vous la faire goûter à température. Pascal, santé. Vous avez toute la noblesse de la plante gentiane dans le verre. C'est très fin, c'est très délicat.
C'est très très frais. Hein.
C'est frais. Oh. Quand je vais chercher ma gentiane, donc c'est souvent quand même au beau jour, hein, il fait encore très chaud. J'y vais avec la camionnette, on prend entre 500 et 1 tonne de gentiane, ça dépend. La voiture embaume. J'ai toutes ces odeurs de gentiane dans la voiture exceptionnelles. Ça sent ça. Voilà, vous sentez juste l'amertume qui vous chatouille la langue, mais...
Elle n'est pas tellement amère, hein.
Non.
Elle est très parfumée.
Oui. Un tout petit peu de gourmandise de sucre pour pas la rendre trop austère.
Ouais, elle est bien sucrée. Enfin, bien juste...
Juste
ce qu'il faut, hein. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. La gentiane, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Parce que vous êtes pas du coin.
Alors, moi je suis originaire de Camargue. Donc,
voilà, donc
là... Ce n'est pas dans mes gènes, la gentiane. Le vague souvenir d'une gentiane, c'est une suze. Et ensuite, quand même, j'ai découvert d'autres marques... Et après, ce n'était pas dans mon ADN. Voilà, ce n'est pas des produits. Nous, on n'est pas nés avec de la gentiane, quoi. Hein. Dans ma famille, on buvait... Si, la mémé buvait un peu de... Mémé, boîte à suze. Voilà, bon. Comme ce n'était pas dans mon naturel, ça m'a demandé encore plus de travail pour arriver au résultat.
Et l'amertume, vous qui n'étiez pas du pays, au début, ça ne vous a pas un peu titillé? Parce que souvent, l'amertume... En plus, dans le métier que vous faites, quand vous étiez sommelier ou dans la vinification, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on recherche, ça peut même être un défaut. Elle ne vous a pas gêné, il n'a pas fallu que vous la domptiez, que vous arriviez à vous y faire
Si on prend le parallèle avec le vin, on va parler de tanin, par exemple. Hein, on peut faire une similitude avec les tanins. Y a des bons tanins, il y a des mauvais tanins. Il y a une amertume asséchante, végétale, et puis il y a une amertume qui permet une certaine ossature et structure au vin. Donc après, tout est question de qualité. Il y a de l'acidité mauvaise et de l'acidité qui apporte. Il y a du sucre qui apporte et il y a du sucre qui pommade, qui écœure, qui... Vous voyez. Mm-hmm. Et il y a des bois et des fûts qui patinent trop... Qui donne des vins trop sans peps. Voilà, c'est toute une question de qualité. Donc, l'amertume ne se résume pas non plus à l'âge ancien, et je prends exemple de peuples comme les Espagnols ou les Italiens, sont des pays où on adore la saveur amère. Ce n'est pas le cas en France. En France, le problème, c'est qu'on n'est pas, tout français confondu, on a du mal avec l'amertume.
Ah oui, oui.
Les Italiens, les Espagnols sont fanas d'amers. Et d'ailleurs, les bitters, les amers, les bitters, viennent en général d'Espagne et d'Italie. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'était le côté amer, c'était pas une saveur qui me dérange. Ça se boit pas pur, avec un adjuvant qui l'équilibre un peu.
Vous êtes adhérent à Agenciana Lutea,
oui.
Qui est l'association de gestion de l'Agenciana, enfin, qui gère toute la filière. Oui. C'était pour vous évident d'adhérer à cette association ?
Ben oui, il faut trouver des solutions pour qu'on puisse avoir une Agenciana durable en France et que les gens ne fassent pas n'importe quoi et que ça soit un minimum régulé. Donc, je pense qu'il faut parfois un tout petit peu légiférer sur l'agenciane naturelle, notamment en Auvergne, mais aussi de partout en France. Donc le fait d'adhérer, c'est aussi apporter une voix supplémentaire à ce combat. Et donc après, il faut obligatoirement, si dans 10 ans on veut encore faire de l'agenciane, il faut la réguler.
Un grand merci à Sébastien Jolivet pour son accueil et le temps accordé pour conter son histoire. Et si vous passez à Clermont-Ferrand, allez visiter la cave et en plus, vous dégusterez une très bonne gentiane.
C'est la gentiane, c'est le terroir, c'est les racines.
Nous quittons Clermont-Ferrand pour retourner sans plus tarder à Picherande.
Bonjour, Frédéric Echaville, je suis le maire de Picherande. Picherande qui organise la 15e fête de l'Agenciane. C'est pas un hasard, notre commune est installée sur une altitude entre 900 et 1500 mètres, avec beaucoup de terres justement où l'Agenciane pousse en quantité. La commune elle-même a presque 500 hectares en propriété et effectivement, on laisse les arracheurs venir la récolter. De tout temps, il y a eu l'arrachage sur notre commune et chaque paysan à l'époque en arrachait un petit peu pour faire un peu une liqueur ou un petit apéritif personnel.
Et puis il y a un de vos prédécesseurs qui, il y a une année, a eu l'idée, avec d'autres sûrement, de faire une fête. Quoi.
Oui, voilà, c'est Paul Gardette, quand elle était maire, qui avait à un moment eu l'opportunité de reprendre cette date de la fête de l'Agenciane. C'est également elle qui, par l'adhésion à l'association européenne, a fait déclarer Picherande premier village européen de l'Agenciane. Donc aujourd'hui, effectivement, on est très impliqué dans l'association de l'UTA. Et voilà, maintenant c'est une tradition, c'est devenu. On s'est attribué ce privilège de mettre cette jolie plante et ses racines en avant et on en est très content.
Ouais, sincèrement, c'est une belle fête. Moi, je trouve que ça reste très. Très convivial, très humain, très simple, vous ne prenez pas la tête, enfin c'est. Il y a toute une ambiance, on sent qu'il y a une âme, quoi. Tout comme on sent qu'il y a une âme dans le village en plus.
Oui, voilà, après le village a la particularité, hein. Comme je dis très souvent, on est un village de 340 habitants. Il faut quand même trouver sa place entre le Toulpol, Besse, Super Besse, Murol et de l'autre côté le Mont d'Or, la Bourboule. Mais on a quand même 2200 lits en location de vacances, ce qui fait qu'on a toujours eu une culture touristique, une culture d'accueil depuis très longtemps. Dans les années 60, Picherande, c'était la capitale auvergnate du ski de fond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré qu'on ait 340 habitants, ça reste quand même une commune dynamique, active. Quoi, c'est grâce à cet équilibre entre des gens qui y vivent, qui font vivre l'agriculture, entre les gens qui également font vivre le tourisme sur notre territoire. C'est cet équilibre qu'il faut toujours arriver à conserver avec un esprit de convivialité, de simplicité.
Voilà. Et par rapport aux terres, donc, ça fonctionne comment, cet arrachage de gentiane ?
L'arrachage de la gentiane, en fait, il faut avoir l'autorisation. La racine étant dans la terre, ce qui appartient à la terre appartient au propriétaire et pas au locataire. Donc en fait, il y a une convention tripartite entre l'arracheur, le propriétaire et le locataire des terres. Voilà, vous voulez venir boire un petit coup avec nous là-haut, au vin d'honneur ?
Allez, oui, vite fait.
Oui.
Merci.
Nous nous séparons le temps d'aller au vin d'honneur et nous nous retrouverons au cœur de la fête dès notre prochain rendez-vous. Au revoir et à très bientôt.